Bonjour, bienvenue à toutes et à tous autour de la grande table d'été. Aujourd'hui, retour sur trois peintres qui se suivent chronologiquement et qui inventent tantôt la modernité, tantôt la couleur, tantôt l'ambiguïté. Le premier, c'est Édouard Manet, le pont entre la peinture classique et la peinture moderne, et des toiles peuplées de personnages qui racontent son époque. Les deux autres ont porté un regard amoureux et peut-être plus encore sur des muses. Pierre Bonnard et Balthazar Klossowski, dit Balthus, muse rêvée, muse retrouvée à l'occasion d'une nuit au musée. Des destins et des vies d'artistes sur lesquels on revient tout de suite avec les écrivains Zoé Valdès et Marc Potrel.
Grande table d'été. Sébastien Thème.
Bonjour Zoé Valdès.
Bonjour.
Vous avez publié chez Stock dans la collection Ma nuit au musée, Les muses ne dorment pas. Une nuit donc au musée Thyssen à Madrid. C'est ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour Marc Potrel.
Bonjour.
Vous publiez chez Gallimard Le peuple de Manet. Des tableaux, des œuvres peuplées de personnages qui nous permettent de comprendre que le peintre est toujours et avant tout un regardeur. Est-ce que c'est ça, Marc Potrel? Au même titre que nous, on est regardeur de ses œuvres.
Oui, c'est même un témoin ou et même peut-être un créateur, justement.
Vous êtes d'accord, Zoé Valdès?
Oui, bien sûr.
Si on peut revenir à la forme de vos deux livres, qui sont tous les deux coupés, scindés en deux. Marc Potrel, vous, c'est d'abord une analyse biographique et puis ensuite une analyse des tableaux. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la forme de ce livre?
Voilà, donc c'est Le peuple de Manet, j'ai voulu montrer comment j'ai... En fait, à l'origine, c'est à force d'aller à Orsay voir les tableaux, par exemple le Fifre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces personnages? Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme, le Fifre? Pourquoi ils existent? D'où ils viennent? Et du coup, je me suis dit, mais donc ils sont pas seulement peints, ils sont créés. C'est comme si Édouard Manet avait engendré, on peut même dire de manière divine, des personnages qui lui ont succédé, et comme s'il était un dieu, le dieu de la Bible, avec son peuple qui est autour de lui, qui le suit, qui le précède et qui lui survit. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je creuse ça.
Il crée une représentation, en fait, Manet, c'est ça. Il crée une première représentation, une première image.
Ben, j'ai eu l'impression qu'il crée vraiment des personnages vivants. Et donc je me suis dit, il faut que je creuse ça. Je connaissais évidemment Manet, je connaissais un petit peu sa vie. Et donc, j'ai repris sa vie. Et ensuite, quand il meurt, j'imagine que ceux qui lui survivent, ce sont justement les personnages qu'il a créés. Et je me suis intéressé particulièrement au corps, c'est-à-dire vraiment aux portraits et puis vraiment aux hommes et aux femmes qui étaient à l'intérieur des tableaux et qui, j'ai eu l'impression, étaient véritablement tous centraux et pas seulement des acteurs d'une scène, mais véritablement des sortes de divinités, de saints, de créatures qui sont toujours vivants, et quand on va les voir, il se passe quelque chose quand même de très particulier avec Olympia, ou avec le déjeuner sur l'herbe, ou avec tous les tableaux qui, d'ailleurs, curieusement, sont tout autour du monde, ce qui va permettre ensuite de me permettre de faire des portraits localisés.
Des corps qui peuplent charnellement aussi ces tableaux. On va y revenir. Zoé Valdès, vous coupez votre livre en deux parce que deux artistes. Pourquoi ces deux artistes d'ailleurs?
Ces deux artistes, parce que quand je suis arrivée au musée, que je connaissais déjà,
les Thyssen de...
Oui, de Madrid, je savais qu'il y avait une exposition temporaire de Balthus, et puis il y a pas mal de tableaux que j'aime beaucoup, de Bonnard, et je voulais travailler justement, créer à partir de ces œuvres-là. Et je voudrais aussi, à ce moment-là, m'inspirer, pas seulement d'écrire, m'inspirer et créer une histoire à partir de ce qui m'inspire. Chaque tableau est un roman, chaque tableau n'est pas un roman, pas un seul, plusieurs. Donc c'est pour ça qu'à partir de ces tableaux-là, j'ai commencé cette nuit-là à avoir pas mal d'histoires dans ma tête et à commencer à les écrire tout de suite.
À rêver aussi, alors rêver à ces tableaux.
Oui, les rêves sont très importants dans ces histoires parce que les rêves, c'est la source de tout créateur, la source divine, je dirais. Et c'est justement, je pense, à l'origine de l'idée d'Alina Gurdiel. C'est elle qui a eu cette merveilleuse idée d'une nuit au musée.
De la collection, oui,
de la collection de Stock. C'est d'être là, présente, pas seulement réveillée, mais aussi à une espèce de duerme vela.
De daydreaming, de rêve éveillé.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Et qu'est-ce qui provoque le plus le rêve, Balthus ou Bonnard ?
Les deux, parce que déjà, il y a la peinture, surtout, comme dans votre livre, qui est un livre merveilleux. C'est un livre qui m'a... Je suis dans la deuxième lecture, déjà. Et il y a l'œuvre qui est très importante, les désirs de décrire l'œuvre, mais il y a aussi, surtout, les mots de ces peintres-là qui ont aussi écrit et qui nous ont donné aussi par des entretiens, des radios. J'ai entendu un entretien avec Balthus qui, à la radio, qui était merveilleuse. Les choses qu'il disait, c'était des choses incroyables. C'était un poète.
Marc Potrel, vous nous expliquez dans ce livre que Manet, c'est un artiste qui regarde le monde qui l'entoure, qu'au fond, c'est le premier peintre d'actualité, on pourrait dire, au fond, le premier journaliste, enfin, dans le sens journalistique du terme. Est-ce que on peut dire que le passage de la peinture classique à la peinture moderne avec Manet, c'est lié à cet intérêt pour le contexte sociopolitique de son époque? Est-ce que ça commence déjà par là?
Oui, je raconte comment il se retrouve dans les massacres du 2 décembre 1851. Il manque d'être tué. Ensuite, dans le siège de Paris par les Prussiens, et ensuite dans la Commune. Et il se retrouve à chaque fois dans ces épisodes-là terribles. Et d'ailleurs,
il s'y retrouve pourquoi d'ailleurs?
Parce qu'il est né en 1832 et que du coup il a 30 ans, voilà, et parce qu'il est à Paris. Et paradoxalement, la question qu'on me pose parfois, c'est pourquoi je me mets tout d'un coup à écrire sur Manet, il n'y a pas d'anniversaire. Et justement, je suis retourné, ou j'ai repris des catalogues de Manet dans la période parisienne. J'étais à Paris des manifestations de gilets jaunes, de grandes grèves et ensuite de confinement, où là on a l'impression un peu que Paris, ou que il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler, ou du moins on perd tous nos repères, surtout pendant le confinement. Et moi je me plonge vraiment dans Manet alors que tout s'écroule, ou que c'est très difficile pour tout le monde. C'est là que j'écris et que je me raccroche à Manet. Parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est quelque chose de à la fois français, une joie de vivre, ou une capacité à comprendre ce que c'est que sa propre vie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a l'exergue de Heidegger. C'est une sorte d'existence extatique. Et donc, tous ces personnages, j'ai l'impression qu'ils ont ça. C'est ce que Georges Bataille il a écrit un texte très important sur Manet. Il parlait de l'indifférence des personnages de Manet. Et moi, j'y vois plutôt une sorte de sérénité, ou de contentement, ou de d'extase. Et donc, voilà, pendant toute cette crise qui est toujours pas terminé, je me suis dit bon, voilà, là c'est, il y a Manet, il faut plonger dans Manet, il faut se raccrocher à quelque chose de positif.
Sérénité, extase. Est-ce qu'il y a un peu de scandale dans son regard qui porte sur le monde, sur la France?
Alors d'abord, il crée le scandale avec Olympia, donc il y a voilà.
Il y a un goût du scandale, alors.
Tout à fait. Et puis voilà, il y a les femmes, il y a la nudité, une façon d'être française, un mode de vie français qui est qui est alors sur les femmes. Il y a aussi un portrait de Nana que j'ai pas décrit, mais qui est un grand tableau. Et puis la fête, les folies bergères, l'alcool. Oui, s'il y a quelque chose de scandaleux, mais de français, peut-être que tout ce qui est français est un peu scandaleux.
Édouard Manet, c'est aussi le style, l'élégance. On va écouter un extrait de l'émission Une vie, une œuvre, qui lui était consacrée en 2016 sur France Culture, un documentaire de Pascal Charpentier.
C'est la peinture nue, Manet.
La peinture, c'est toujours nue. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est très simple. Hein. Quand c'est un bon peintre, c'est toujours simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Quand il fait, le déjeuner ou je sais pas, le balcon ou la femme au perroquet ou des choses comme ça. Comment elle s'appelle? Pas la femme au perroquet. Nana, tout ça.
Nana.
C'est toujours comme c'est. C'est toujours comme c'est, Manet. C'est comme ça. Manet dit la peinture, c'est comme ça. Comme Velázquez dit la peinture, c'est comme ça. Mais il annonce la fracture. La fracture, elle va venir avec l'alpiniste chirurgien, là, Cézanne, quoi. Mais il est pas là, quoi. Manet est pas là encore. Manet, il a cette. Il a cette préciosité française, qui est unique au monde, je pense. Il a cette intelligence, il est du côté des mousquetaires, Manet. Du côté du style, de l'esprit, quoi. D'élégance comme ça, absolue.
C'est un extrait d'Une vie, une œuvre consacrée à Manet, que vous retrouvez évidemment sur le site franceculture.fr. Marc Potrel, vous voulez réagir? Mousquetaire Manet?
Oui, mousquetaire, ça m'a fait penser immédiatement au magnifique mousquetaire peint par Picasso à la fin de sa vie. On a ce même, tout à fait, et là c'est très français, un mousquetaire.
Zoé Valdès, est-ce qu'il y a chez Bonnard ou chez Balthus un goût du scandale?
Ah oui, je pense que c'est très important pour un artiste de recréer les scandales à travers non seulement ce qu'ils ont vécu, aussi ce qu'ils sont en vie de vaincre à travers l'œuvre, la peinture. La peinture est très, je ne sais pas si on peut dire comme ça en français, curative. Elle soigne, comme l'écriture d'ailleurs. Et je pense qu'il y a pas mal de choses que après les scandales, il y a pas mal de choses dans la création qui purifient. Et dans cette purification, évidemment, il y a le désir de se sauver de les scandales ou d'accomplir encore un autre scandale à travers une autre purification.
Et est-ce que ce scandale, il peut passer par exemple par la représentation des muses, hein, dans votre livre, les muses ne dorment pas. Dans le cas de Bonnard, sa muse, c'est Marthe, qui deviendra sa femme. Mais il y a aussi une autre muse, c'est Renée Montchatti, une jeune fille au carré blond, qui va se suicider. Pourquoi elle se suicide d'ailleurs
Elle se suicide parce qu'elle a eu une relation avec lui, avec les peintres, parce qu'elle était très amoureuse, et parce qu'elle était enceinte à ce moment-là, et puis parce qu'elle était aussi amie de Martha, c'était trois amis. Elle était beaucoup plus jeune. Martha était déjà, elle avait une santé très faible. Et il y avait aussi une, je pense que cette chose non dite que sont entre eux qui ont pu faire croire à cette jeune fille qu'elle avait une place beaucoup plus importante que celle des muses dans la vie du peintre de Bonnard. Et c'est ça le mystère de cette histoire qui a été un peu très mal perçue par les gens qui ont venu après, les gens qui ont compris qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette relation.
Quelque chose de dangereux aussi dans le fait d'être muse aussi finalement.
Surtout.
Qu'est-ce qu'on donne et puis qu'est-ce qui nous reste à la fin?
Oui, oui, oui. C'est ça qui m'intéressait de présenter aussi dans ces livres, c'est-à-dire le rôle de muse, l'importance des muses, mais aussi quand les muses ont aussi quelque chose à dire et quelque chose à créer aussi, à partir de leur corps et de leurs sentiments.
Quel est le regard de Bonnard sur les femmes dans ses peintures ?
Bah, elles sont très présentes, c'est un regard, c'est la beauté pour lui, les femmes. La nature et les femmes sont très importantes dans l'œuvre de Bonnard, et ça s'entretisse, c'est comme un tapis. C'est comme le tapis de la Dame à la licorne, où il y a la nature, il y a les femmes et les sentiments, et on les voit, on les sent même.
On va écouter l'artiste Monique Friedman au micro de Caroline Brouet. C'était en 2015. Elles visitaient toutes les deux l'exposition consacrée à Bonnard au musée d'Orsay, Peindre l'Arcadie.
Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur dans ce tableau. C'est-à-dire que ce qui fait la fenêtre n'amène pas vers l'extérieur. C'est simplement une lumière. Une lumière qui vient éclairer ou supposer éclairer le nu, le corps de la femme, qui se retrouve dans le miroir. C'est un travail de nuances, des couleurs les unes sur les autres, les unes à côté des autres. Tout ce que Bonnard a peint, enfin les femmes qu'il a peint dans les nus et dans l'intimité de la baignoire, de la salle de bain, c'est que le regard de Bonnard sur le nu féminin est un regard qui, pour moi en tout cas, n'est pas un regard de voyeur sur le corps de la femme. Et quelque part, je dirais que, en tant que femme, je m'identifierais plus au plaisir de la femme qu'au regard voyeur du peintre sur la femme. Et ça, c'est extrêmement nouveau. C'est-à-dire que on peut s'identifier à la jouissance de la femme et non pas uniquement à la jouissance de l'homme regardant la femme nue.
Là, c'était un extrait de l'émission La Grande Table, c'est en 2015, Monique Friedman au micro de Caroline Brouet dans l'exposition Peindre l'Arcadie au musée d'Orsay. Vous voulez réagir sur justement
tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, et j'ajouterais seulement que c'est ce qu'il a vu, c'est que et la lumière dans les corps des femmes. Et puis aussi, et ce qu'il a pressenti aussi, c'est que les femmes, ses muses, et surtout René Monchatti, savaient l'importance de cette lumière dans leur corps, et elles jouaient avec ça. Ça, c'est très important parce que on le voit pas dans la peinture, on le pressentit, on le sent.
Vous parlez de la lumière du corps, mais c'est aussi, Bonnard, c'est aussi la couleur.
La couleur, surtout.
C'est des nouvelles,
oui,
couleurs, justement. Comment
sûr.
Cette lumière, ce
bien
corps,
sûr.
Ces couleurs, elles
bien
se...
Bien sûr, bien sûr. Bon. C'est à mon avis, et Picasso le disait aussi, c'est le peintre qui a su ce qui était la lumière du vert et des couleurs, et qu'il a créé une nouvelle lumière à partir des couleurs.
Marc Potrel, est-ce qu'on peut dire la même chose de Manet d'ailleurs? Sa muse, c'est Victorine Meurent.
Alors, il n'a pas une muse, il a beaucoup de muses.
Ouais,
et
là...
Il y a aussi
Olympia, l'Olympia,
le Rizzo, il y a
aussi
Suzanne
sûr.
Manet. Il y a ensuite, il y a une liste importante. D'ailleurs, une anecdote, c'est que Manet a tendance un peu à tromper sa femme. Et un jour, dans la rue, il se promenait avec sa femme et il se retourne pour regarder avec insistance une autre femme. Et elle le reprend, elle lui dit « Non mais dis donc », et il lui dit « Oh, excuse-moi, je croyais que c'était toi ».
Donc il y a... Ah, c'est ça alors. Donc, cherche sa femme dans toutes ses muses.
Voilà, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que pour revenir à ce que vous disiez sur la place de la femme, en fait, il y a une chaque femme est multiple parce qu'il va prendre par exemple Le Victorine Meurent, il prend le visage de Victorine Meurent et il la met dans plusieurs personnages comme donc Olympia, c'est le visage de Victorine Meurent, mais c'est pas le même corps parce que c'est inspiré d'une toile de Goya. Également la femme
sur l'herbe, c'est
voilà, c'est également c'est Victorine Meurent. Par contre, la muse surprise, c'est Suzanne Manet, enfin le visage de Suzanne Manet. Donc voilà, il y a une sorte de
et qu'est-ce qu'on peut comprendre justement de ces...
pour lui, une même femme peut être 50 personnages totalement différents. La femme Toréador, je sais plus le titre exact, voilà, qui est, c'est Victorine Meurent en Toréador. Voilà, cette multiplicité d'une même femme.
Oui, non, j'ai beaucoup aimé aussi parce que évidemment de mon côté espagnol, la façon où vous racontez l'importance de l'Espagne, des peintres espagnols
et des peintres espagnols, absolument.
Dans l'œuvre de Manet,
c'est un vrai choc pour Manet, qui est un bourgeois français, qui donc a beaucoup voyagé pour visiter les autres musées dans tous les pays d'Europe, mais c'est vraiment en Espagne, il a un choc énorme sur le folklore, la façon de vivre en Espagne,
Goya, Velázquez,
la corrida, voilà, et puis évidemment Velázquez, quelque chose, le flamenco, il a vraiment un choc culturel, esthétique sur l'Espagne, une sorte de lien qui se crée entre un des plus grands, si ce n'est le plus grand peintre français, et l'Espagne. C'est-à-dire, sans l'Espagne, il n'y a pas de Manet.
Zoé Valdés, je voulais revenir aussi sur un regard, puisqu'on parlait du regard du peintre, du créateur sur sa muse, sur la femme. Le regard de Balthus, il a pu questionner un regard sur des jeunes filles, sur leur représentation. Qu'est-ce qu'il raconte ce regard qu'on a tendance à définir comme un regard un peu déplacé ?
C'est pas important dans mon livre. C'est-à-dire, ce qui m'importe, c'est justement les traitements de l'ombre sur ces filles-là. C'est-à-dire, tandis que pour, par exemple, pour Bonnard, c'est le corps des femmes, c'est la lumière. Mm-hmm. Chez Balthus, le corps des filles, c'est l'ombre.
D'accord.
C'est beaucoup plus un mystère où l'ombre a une importance incroyable. Et puis, c'est vrai aussi que. C'est un peintre qui a eu pas mal de situations sur liées avec la moralité et tout ça. Moi, je pense que ça, c'est une autre chose pour les gens qui s'occupent de la morale. Moi, m'occupe de la littérature et de l'œuvre de ce grand peintre qui est pour moi celui qui a su. Et créer un moment extraordinaire entre le temps et l'instant. Et c'est aussi une autre forme de d'écriture à travers la peinture.
Mais vous dites, et vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, Zoé Valdés, que vous avez une histoire très personnelle avec Balthus.
Quelle histoire ? Parce que
vous la transformez en histoire fictive dans ce livre, avec le personnage de Maria.
Elle est inspirée d'une histoire réelle, c'est-à-dire que j'étais à une époque, très très, quand j'étais très jeune, pas tellement, j'avais 23 ans à l'époque, et j'avais posé pour un photographe, et c'est grâce à lui que j'ai fait brièvement quelques poses pour Balthus, et je ne savais même pas que c'était Balthus. C'est une amie qui m'a dit, tu sais, elle m'a accompagnée parce que j'avais un peu peur. Et non, mais je ne savais pas. Donc
c'était pas ça qui vous effrayait.
Oui, non, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Balthus et tout ce qu'on me raconte. C'est parce que j'avais toujours peur de faire quelque chose en plus. J'étais dans une situation compliquée à l'époque et personnelle. Mais elle m'a dit, tu sais, c'est Balthus, tu ne peux pas croire. Et elle m'a expliqué. Et à partir de ce moment-là, je ne voulais même pas prendre l'argent, rien, parce que j'étais tellement impressionnée, j'ai commencé à découvrir. Et à chaque fois que je ne sais même pas regarder ce qu'il avait fait, et à chaque fois que je suis dans une exposition, je me cherche, je ne m'ai jamais trouvé, ou il m'a transformée, je ne sais pas, mais... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué énormément et que c'est pour ça que je l'aime énormément aussi, évidemment.
Et on revient aussi au statut de muse encore une fois. On va écouter la lecture d'un texte d'Antonin Artaud sur l'œuvre de Balthus à l'occasion de sa première exposition, c'était en 1934, qui peut nous éclairer justement sur sa peinture.
Je ne sais pas pourquoi la peinture de Balthus sent ainsi la peste, la tempête, les épidémies, mais elle ramène au jour quelque chose d'une époque électrique de l'histoire. Un de ces points où le drame se noue. Quelque chose d'un de ces creux atmosphériques appelés le poteau noir, et où le navire qui avance est comme but, et il n'y a rien. Les paysages sont inertes et calmes. Les personnages sont ceux d'un grand drame qui couve, mais surpris dans les côtés les plus anecdotiques de leur vie. Ligeia, Morella et Leonora, Bérénice devant leur table de toilette, Lady Macbeth se curant les ongles avec son tout proche hoquet sanglant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce peintre, Balthus, a quelque chose de plus que la peinture à dire, et que ce quelque chose, par-dessus sa peinture si terriblement stricte, rigide, volontaire, fidèle, exacte, scrupuleuse, méticuleuse et honnête, pue la tombe, les catacombes, l'orbituaire, l'antique ossuaire, le cercueil.
La grande table d'été, Sébastien Thème.
C'est la lecture d'un texte d'Antonin Artaud sur l'œuvre de Balthus, accompagné de la bande originale de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Bande originale signée Arthur Simonini et Parawan. Un film qui racontait évidemment ce changement de regard sur le modèle féminin. Modèle féminin, regard féminin aussi, parce que regard féminin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu d'ailleurs?
Non, je ne l'ai pas vu, désolé, mais c'est vrai. C'est vrai que déjà c'est un très beau texte qui est seulement en chance à la radio, on écoute comme ça une lecture avec très bien lu et très, d'une beauté immense. Non, je pense que ce qui est important, c'est de dire que le rôle des muses, il y a aussi un moment où les muses passent de l'autre côté. Et c'était ça l'essence de mon histoire, c'est-à-dire un moment où les muses disent « je vais devenir quelque chose d'autre » et peut-être pourquoi pas peintre. Il y a les cas par exemple de Berthe Morisot justement, il y a aussi et d'autres cas de d'autres muses qui ont été elles aussi peintres ou écrivaines. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire la trajectoire d'un moment de comment on dit de s'édonner de darse, comme on dit en espagnol, de s'édonner, et un moment aussi d'apprendre les choses, de s'approprier aussi des choses.
Mais vous racontez aussi dans votre livre que justement le personnage de Maria, qui est donc ce personnage fictif, il est Il est un peu espionné, il est regardé, son corps il est photographié, nu, et que c'est aussi la perte de ce personnage, ça va être le fait qu'elle est acceptée, qu'on la mette à nu.
Oui, bien
pas
sûr.
Pas vraiment de se donner, en c'est fait, on a plutôt...
Oui, ça c'est très important, et je vous remercie de faire une remarque sur ce moment-là, parce que c'est vrai que ce personnage qui était tellement espionné par la relation qu'elle avait avec un autre peintre qui était son mari, qui était diplomate aussi de Cuba et tout ça, décide de fuir cette situation par une autre situation d'exposition aussi, beaucoup plus à l'ombre, beaucoup plus à l'intérieur, mais aussi d'exposition totale de son corps et de ses sentiments aussi, parce qu'elle rentre dans une relation importante avec ses photographes. Et même si ça va pas s'accomplir à ce moment-là, mais à la fin, elle va le rencontrer à nouveau, justement à Madrid. Elle va avoir une relation réelle avec lui. Mais c'est vrai que ce qui est très important dans ces passages-là, c'est la partie politique, comment elle s'empare de tout. Et à un moment, on réussit, surtout je pense que les femmes ont une capacité, une espèce des pots de chat pour savoir ce qui va arriver à ce moment-là et fuir le danger. Et elle va se mettre justement se protéger avec un autre danger.
Marc Potrel, sur justement ce changement, peut-être cette envie de changement de regard sur les modèles, sur les femmes, est-ce que vous qui écrivez sur la peinture, vous avez un regard sur ces modèles et sur ces femmes?
Je voulais avant revenir sur le texte d'Artaud, où en parlant de Balthus, il disait il a quelque chose à dire, il a quelque chose de plus que la peinture à dire. Et je crois que c'était exactement le cas de Manet, c'est-à-dire il y a une vraie leçon de Manet à retirer de chaque portrait, ou presque de la méditation de chaque portrait. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et particulièrement quand on voit les tableaux en vrai, on n'a pas tout à fait la chance de pouvoir tous les voir, puisqu'ils ont été, dès le début, je le remarque, je le note plusieurs fois dans la première partie, ils ont été dès le début achetés par les premiers mécènes, les premiers collectionneurs, qui étaient les Américains, et beaucoup sont aux États-Unis, ou ils sont au Brésil, ils sont au Japon, ils sont
un succès immédiat donc.
Oui, par des collectionneurs très très avisés, très intelligents, qui voyaient déjà l'avenir. Donc oui, voilà, c'est il y a quelque chose de plus que la peinture. Il y a c'est ce que j'avais l'impression donc dans toute cette période où j'ai écrit le texte, c'est-à-dire qu'on trouvait plus, on avait besoin de chercher ses racines, on savait plus qui on était. Et dans les tableaux, les personnages, ceux que j'ai appelés le peuple de Manet, tous ces personnages qu'il a créés, qui sont pas la totalité de ces tableaux. Il y a 400 tableaux. Là, j'en ai pris une quarantaine. Et dans les 400 tableaux, il n'y a pas des personnages. Parfois, il fait des fleurs, des bouquets. Parfois, c'est même des chiens. Il y a au moins deux petits chiens charmants par Manet, et des portraits de chiens. Mais dans les personnages, vraiment, il y a quelque chose à prendre et à méditer pour soi, une sorte de philosophie. Qui sont ces êtres qu'il a créés? À quoi il pense? Pourquoi ce que Baïta appelait cette indifférence? C'est que moi je vois plutôt dans une vraie comment dire, ils ont atteint leur la sagesse, quoi. Ils savent qui ils sont. C'était ça que je voulais montrer à chaque fois, pour que soi-même on essaie aussi enfin il faut qu'on, si on ne sait pas qui on est soi, on va nulle part. Et c'est vrai que là, à ce moment, tous, là, on arrive à survivre parce qu'on lit beaucoup, on écrit, mais on sent qu'il y a beaucoup de tensions personnelles et beaucoup de c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi.
Je voulais qu'on écoute, et on reviendra sur ce que vous êtes en train de dire, Marc Potrel. Je voulais qu'on écoute l'écrivain Yannick Haenel, qui a une très belle analyse justement sur la peinture. C'est un entretien réalisé par Matteo Carantal il y a quelques mois. Il répondait donc à ces questions. On l'écoute.
Moi, j'aime Bonnard parce que c'est un faune tranquille. C'est un obsédé doux. Et celui-ci est entièrement vertical. Cette jeune femme est blond, blond vénitien, cheveux courts. Elle est entièrement nue et elle a des talons. Elle est enserrée comme un bijou, au fond, à demi ensommeillée, entre deux pans de mur, un long pan de mur jaune, papier peint jaune, avec des espèces de nymphéas, de fleurs roses. Et puis, de l'autre côté, sur la droite du tableau, quelque chose qui me fait penser à un Rothko. On dirait qu'il y a Rothko qui est en train de germiner, là, dans les années 30, qui est sans doute une baie vitrée, enfin, c'est la lumière bleutée, presque violette, traversée de lignes verticales foudroyantes, oranges et vertes. Alors, je sais pas, pour un écrivain comme moi, aller chercher des couleurs, aller distinguer des petits miroitements de vert pétrole près du pubis d'une femme, voir que la tête de cette femme nue est entourée par une espèce d'auréole profane qui est le miroir bleu derrière elle, entrer en elle, laisser s'ouvrir une femme. Il y a là, je crois, quelque chose d'une sorcellerie douce chez Bonnard. Et c'est une peinture qui, je crois, est entrée dans un devenir deleuzien, qui est le féminin, le devenir féminin de la peinture.
Alors, sur le devenir féminin de la peinture, rapidement, est-ce que déjà vous avez...
Elle est en train de peindre, là. Il peint avec ses mots, là. C'est
magnifique, voilà.
C'est magnifique.
Parce que l'écrivain, justement, les écrivains que vous êtes tous les deux, le peintre, il a la couleur, il a la lumière, vous avez les mots. Comment on écrit, comment on décrit la peinture?
Zoé Valdez disait tout à l'heure que dans chaque tableau, il y a un roman. Et c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit un tableau, on se dit, mais pourquoi? Enfin, il y a une histoire qu'il faut raconter, ou il y a quelqu'un qu'il faut expliquer. Moi, c'est des personnages où j'avais envie de raconter l'existence, ou le qu'est-ce qui, voilà, le clairon qui termine le livre. Voilà, qu'est-ce qu'il a vécu, et qu'est-ce qui va mourir, et pourquoi il y a cette force. Voilà, on voit un tableau et on voit un roman, et donc, comme on est écrivain, on écrit le roman qu'on voit.
Et c'est le sujet de son livre, justement. À chaque chapitre, on est évidemment, on a la curiosité de aller chercher les tableaux, mais on à travers les mots, on découvre son tableau à lui. Et c'est ça qui est très très important dans l'écriture de réécriture d'un peintre de son œuvre, parce que on a aussi une partie importante, un rôle important à jouer dans son œuvre. On est en train d'interpréter, mais aussi de créer quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, c'est magnifique son livre, parce qu'on redécouvre les tableaux et on découvre un nouveau tableau. Yeah.
ambition. She intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid air, I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Oh God, I fell for you.
Blood of our lips sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined?
C'était Patti Smith et son titre Dancing Barefoot, issu de son album Wave, sorti en 1979. Patti Smith, qui elle aussi a été une muse, celle du photographe Robert Mapplethorpe. Patti Smith qui sera en concert au Grand Rex le 8 et 9 octobre prochain. Merci à tous les deux. Zoé Valdès, Les Muses ne dorment pas, c'est chez Stock. Marc Potrel, Le Peuple de Manet, c'est chez Gallimard. Merci à tous les deux.
Si.
À suivre sur France Culture, 15h, rendez-vous dans les archives de Philippe Garbi. 16h, c'est Eureka avec Antoine Beauchamp. Et 18h15, le temps du débat d'été par François Saltiel. Nous, on se retrouve demain à 12h45 avec le chef Guy Savoie qui vient nous présenter ses recettes de soupe estivale. Et ça tombe bien, je crois que l'été arrive enfin. C'est la fin de cette émission, préparée par Valérie Costantino et ma poésie et Jeanne Copé. Réalisation Milena Elig et à la technique aujourd'hui, Félix Delacour. Une émission disponible en réécouté en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.